La Casanova est une guerre civile qui se décompose en trois étapes. L'insurrection, mars 93. L'essai de prise de Nantes, qui est donc le 29 juin 93. Nous sommes dans une phase ascendante ici. Les Vendéens sont victorieux, les Républicains se débandent, Paris n'a pas conscience de ce qui se passe. Deuxième phase, pour la première fois, le 29 juin 1993, les Vendéens ont été blessés à mort par leur expression, c'est-à-dire l'homme déifié, Catelino. Stabilisation des forces en présence. De toute façon, que les Vendéens gagnent ou qu'ils soient défaits, les rapports de force en raison des morts ne peuvent que leur être défavorables, puisque les forces républicaines sont quasiment infinies par rapport à la Bretagne, par rapport à la France. Et donc les Vendéens décident alors de traverser la Loire le 18 octobre 1993 pour essayer d'insurger tout le nord de la Bretagne et manque de peau. S'ils avaient fait de l'histoire, ils n'auraient sans doute jamais traversé à Saint-Florent-le-Vienne, parce que Saint-Florent-le-Vienne, c'est l'autre côté de la frontière entre la France et la Bretagne. J'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que la Bretagne était un royaume indépendant jusqu'en 1488. Ça veut dire, et je vous ai dit tout à l'heure pour la chapelle de Basse-Mer, qui est ici, sur la Loire, que ici vous avez une double frontière. Vous avez une frontière bretonne et vous avez une frontière française. Comme on ne sait pas si les Bretons sont français ou anglais, eh bien on a mis partout des places fortes, des donjons, des tours, des châteaux, des villes. Et n'oubliez pas que Fougères est la plus grande ville fortifiée de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement unis. Et vous avez une double ligne Maginot ici. Si vous allez, sur cet espace, vous allez découvrir des châteaux extraordinaires, la plupart du temps, oui, colossaux. Ce qui est vrai du côté breton est aussi vrai du côté français, c'est-à-dire avec le Mans, Angers, etc. Conséquence, lorsqu'ils traversent la Loire, les gars, ils traversent de l'autre côté de la frontière. Ça veut dire que sans arrêt, ils vont se heurter à cette colonne, à cette ligne machine. Alors, pourquoi les Vendéens ont-ils traversé la nuit le fleuve? Et encore est-ce un exploit que tout le monde a honoré, y compris le grand stratège qui était Napoléon Ier? Alors ce n'est pas un exploit, surtout pas. Et deuxièmement, les Vendéens n'avaient pas le choix. Et je m'explique. Lorsque les Vendéens s'insurgent, vous avez à Vitré, qui est ici, qui se lève à la rétête parce que son député maire, c'est Pierre Meignery. Vous avez un général, qui s'appelle Bessette. Et ce général, c'est un bon militaire, c'est un homme de terrain. Et il prend conscience que si l'union se fait entre la Bretagne et la Vendée, c'est son expression, c'en est toute la République. Et il a une double idée géniale. La première idée, il prend 2000 hommes avec lui et il va partir de Fornic pour aller jusqu'à Angers, avec comme finalité surtout de détruire l'habitat, ce qui est plus propre à frapper l'imagination populaire que la mort de l'homme. Et la deuxième chose qu'aucun historien n'avait vue, c'est qu'il fait mettre en place sur la Loire une flottille de chaloupes dont j'ai retrouvé la constitution à Nantes de manière très 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 précise avec les lieux de concentration pour l'amusement. On a même retrouvé le nom de ces bateaux et entre autres vous avez le Fabius, vous voyez, on est toujours prisonnier de son nom, hein, le Républicain, l'Invincible, etc. Et en fait, cette double ligne qu'il a créée de toutes pièces est géniale parce que ça rend la rivière infranchissable.
Ce qui fait que lorsque les Vendéens décident de la franchir à Saint-Florent-le-Vieil, ce sont des bons stratèges par rapport à la situation ligérienne, mais ce sont des mauvais stratèges par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la ligne de Maginot, franco-bretonne. Et pourquoi choisissent-ils Saint-Florent-le-Vieil? Ben pour une raison bien simple. C'est que le cœur de la Loire, vous avez une île. Si bien qu'on peut multiplier les cadences. Mais ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils font ça de nuit? Ben parce que le jour, les bateaux circulent. Mais comme il n'y a pas d'électricité à l'époque, eh ben ils ne peuvent pas circuler la nuit. C'est aussi bête que ça. Conséquence, lorsque les Vendéens ont traversé la Loire, ils vont prendre d'assaut tous les pontons, ici, et ils vont être libres pour traverser. Et lorsque les Républicains arrivent le lendemain, c'est terminé, c'est bouclé. Je ne vais pas poursuivre sur cet itinéraire. On va arriver à la conclusion, les Vendéens vont sortir, mais jamais réussi à pénétrer là-dedans. Et bon, ça va se terminer à Granville. Vous connaissez Granville, ne va pas se rendre. Ils auraient pris Granville, ils auraient pu. Après, aller de l'autre côté de la ligne de démarcation. Et puis les Vendéens, eh bien, ils vont réussir à traverser la ligne de démarcation parce que, bon, en fait, les forteresses sont vides puisque les Républicains leur courent après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe l'affaire de Saguenay, c'est-à-dire que on va écraser les Vendéens. J'essaie de trouver. Voilà, je vous lis le texte. Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. On écrase le Vendée à Saguenay, bataille de Saguenay, 21-23 décembre 1793. Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais, dans les bois de Saguenay. Tous les mots sont importants. Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les enfants sur le pied des chevaux, massacré des femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé.
Signé
Westermann. C'est un texte terrible, mais c'est un texte lié à la guerre civile. Vous me direz oui, mais par rapport aux conventions à la laquelle, c'est un crime de guerre. Oui. Indiscutablement, les militaires ont commis un crime de guerre, mais ce n'est pas lié à un génocide. À la fin du mois de décembre 1793, la Vendée est exemptée, réprimée. Je vous ai expliqué tout à l'heure que 60% du territoire national s'était insurgé. Tous les lieux insurrectionnels en France, y compris dans le Berry, ont tous été réprimés dans le sang, il n'y a plus de lieu insurgé en France. Et la troisième chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les armées étrangères étaient sur le territoire national avant, le mois de mars, elles ont toutes été battues et repoussées au-delà des frontières. Ça veut dire que la France, à la fin de décembre 1793, contrôle parfaitement la situation à l'intérieur et contrôle parfaitement la situation aux frontières. Et c'est là que l'on décide de mettre en œuvre le génocide. J'ai mis personnellement beaucoup de temps, je ne le cache pas, à essayer de comprendre à la fois la logique et la mécanique. En fait, tout a commencé par le verre. Ça a commencé en avril 1793, c'est le verre. Verre émis par Barrère, je ne sais jamais si c'est deux R ou un R, parce que selon les historiens et selon les documents, il y a deux R ou un R. Ministre. Lorsqu'on apprend l'insurrection des Vendéens, entre autres, on se dit, qui a osé? On dit, les Vendéens. Qui c'est? Réflexe, il faut les exterminer. C'est le verre. Deuxième phase, c'est la phase légale. On est dans un pays de droit, on appelle la révolution pour ça. Et en fait, on va voter deux lois
La première loi est la loi du 1er août 1793, et la deuxième loi est le 1er octobre 1793, complétée par la loi du 9 novembre 1993, par voté et appliquée. Deuxième phase, donc la phase légale.
Première loi de 1793, c'est une loi très simple. C'est la loi d'anéantissement des biens. C'est-à-dire, on part du principe que si ce peuple n'a plus à manger, il ne peut plus se battre. Peuple riche. Et la loi, je vous la lis, il sera envoyé par le ministère de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis, les jeunes. Que les forêts seront abattues, les repères des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers pour être portées sur les derrières de l'armée et les bestiaux seront saisis. Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République. Il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens qui sont demeurés fidèles à la patrie des pertes qu'ils auraient souffertes. Donc, loi d'anéantissement. Loi unique dans l'histoire de l'humanité. Hein. On n'a jamais eu de loi similaire. Donc, loi d'anéantissement. Deuxième loi, qui est unique. C'est la première fois. Retenez ça, c'est fondamental. Première fois, et seule fois, dans l'histoire de l'humanité, qu'un peuple souverain vote, conceptualise, vote et fait appliquer l'extermination d'une partie de lui-même. Je défie quiconque de me trouver un autre pays qui a fait ça. Sûrement pas l'Allemagne nazie. La répression des juifs, des communistes, des catholiques, etc., sont des mesures politiques et administratives. Elles n'ont jamais été votées. Tout ce qui s'est passé derrière le rideau de fer ont tous été toutes les mesures d'extermination retenues ont été des mesures politiques et administratives. Je vous défie de trouver une loi sur ce sujet. Et la loi est très précise, c'est la loi d'extermination qui a été votée, publiée au journal officiel. Une loi est toujours publiée. Il faut exterminer les brigands. Puis il y a des généraux qui disent, mais attendez, qu'est-ce qu'on entend par brigands? Et on va le définir. Tous les habitants résidents en Vendée doivent être considérés comme des brigands. Bleus et blancs confondus, et de préférence les femmes scieurs producteurs et les enfants car en passe de devenir futurs brigands. Troisième loi.
La loi du 7 novembre 1780.
C'est une addition d'axiomes. Je vous l'ai dit.
Personne ne peut se soulever contre la République bonne et généreuse.
S'il y a des gens qui se soulèvent, ce ne sont plus des gens. Ça ne peut être que des membres d'une sous-race que l'on va réduire à l'état animal.
Et d'ailleurs, le vocabulaire va changer à partir de ce moment-là. Les Vendéens vont devenir des loups, etc.
Mais par nature, une race inférieure réduite à l'état animal ne peut pas avoir territoire. Mais si elle ne peut pas avoir territoire par nature, le territoire, s'il n'existe plus, il n'a plus de nom. Donc la Vendée, on la débaptise, la Vendée n'existe plus. Mais en même temps, cet espace vide, il doit être occupé, récupéré idéologiquement. Conséquence, on va lui donner un nouveau nom qui va exprimer à la fois la philosophie et la politique. Et ça sera le nom de département Vengé. Alors pourquoi Vengé? Ben, par extrapolation. N'oubliez jamais, comment s'appelle le guillotineur, celui qui guillotine? Ben, le vengeur du peuple. Le bourreau s'appelle le vengeur. Donc une fois qu'on a mis en face... Donc A, B, la phase légale, c'est pas tout de voter des lois. Le problème est de savoir comment peut-on exterminer 815 000 habitants qui sont de surcroît tellement mauvais républicains qu'ils refusent de se laisser exterminer. Ça vous fait sourire, mais c'est une question de fond. Et on se dit... Il faut absolument. Nous sommes dans la période du rationalisme, du scientisme, créer les moyens scientifiques pour exterminer ces juifs.
Donc première phase, dans le cadre des commandes, c'est la période scientifique. Et on va retenir trois moyens.
Premier moyen, c'est la mine antipersonnelle. C'est-à-dire, on mine les territoires de la Vendée,
et puis la mine explose sous les pressions, et puis voilà.
Deuxième moyen, c'est l'empoisonnement à grande échelle, à partir de l'arsenic.
C'est le lieutenant de Charette, je crois que c'est à Machecou,
qui découvre des fourgons entiers d'arsenic, et qui se pose, c'est Savin, il s'appelle Savin, et qui se pose la question de savoir à quoi cela pouvait servir.
Et puis le troisième solution, c'est le gaz à grande échelle.
Et on va faire appel au plus grand chimiste de cette France du XVIIIe siècle, qui s'appelle Pourcroy. Et on lui demande de créer le gaz qui puisse empoisonner 815 000 habitants.
Pourcroy est un homme de science. Il ne se pose aucune question. Il va réfléchir, il va donner des conclusions, et si un jour vous pouvez me trouver ce document, je serai ravi. Son document a été déposé aux Archives nationales. Malheureusement, la chemise est vide.
Mais on le trouvera. Un jour, il donne ses conclusions. Il ne peut pas trouver le gaz pour empoisonner l'air de la Vendée.
Et donc, il y a des petits malins, des petits génies.
C'est notamment un pharmacien à Angers qui s'appelle Proust, qu'il se dit, c'est un provincial, je vais faire mieux que le parisien, je vais créer ce levain propre à empoisonner l'air. Il croit l'avoir trouvé, il fait l'expérience au pont de Sion, on a le rapport, et la conclusion est intéressante, quoique stupéfiante. Ni les conventionnels, ni les moutons sur lesquels a été faite l'expérience n'ont été accommodés. Échec au gain. Échec à la mine, personnelle. Et échec, bien entendu, à l'empoisonnement à grande échelle pour des raisons évidentes. Donc on se dit, parce qu'on a un programme, on a une volonté, on a une finalité, on va revenir à des moyens pragmatiques.
Je suis très précis parce que c'est important que vous ayez ça en tête. Et on va en tenir principalement quatre.
Premier moyen, vous connaissez, c'est la guillotine. Deuxième moyen, ce sont les sabrades, vous savez, on met les gens en file indienne et puis on les sabre à coups de baïonnette ou à coups de sabre. Troisièmement, c'est l'éclatement des crânes. Quatrièmement, c'est les fusillades. Cinquièmement, excusez-moi, il y en a cinq, ce sont les noyades, soit individuelles, soit par coupe, soit dans des bateaux. Et très rapidement, on se rend compte qu'il y a trois problèmes par rapport à ces méthodes pragmatiques. Premier problème, c'est la lenteur des opérations. Et c'est vrai, c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Vous savez, une guillotine, c'est très lent. Le meilleur rendement de la guillotine, je crois que c'est le jour de l'exécution de Robespierre, 33. Je crois que c'est ça le meilleur rendement. Mais on ne peut pas aller au-delà. Puis vous savez, les noyades, c'est très lent aussi. Les sabrades, quand vous sabrez des femmes, des enfants, etc., ben, les soldats, quand ils en ont été deux ou trois, ils n'en peuvent plus, ils vont vomir, ils vont les changer, etc. Puis les Vendéens, comme ils disent, ont la peine tellement, résistante, que sous la répétition des chocs, les lames cassent, etc. Et on se dit, c'est trop long. Puis deuxièmement, le coût. Quand j'ai vu, pour la première fois, cette notion de cherté être avancée, j'étais stupéfait. Et j'ai essayé de comprendre ce que cela pouvait coûter, la guillotine. La guillotine coûte très cher. Je ne parle pas de l'érection, mais il y a aussi l'entretien. Vous savez, le sang est corrosif, la guillotine est toujours peinte en rouge. Hein. Quand vous coupez une tête, vous avez 2 litres en moyenne de sang qui s'échappe sur 5 à 6 litres que contient le corps humain. Ben, c'est corrosif, il faut la repeindre. Puis en même temps, il faut concentrer les gens, il faut les acheminer. Il faut les porter. Le bourreau est membre d'une profession libérale, il n'est pas fonctionnaire. Il est rémunéré à la tête, 100 livres. Le porteur, 50 livres. Si on a plusieurs, c'est autant de fois 50 livres. Puis quand on coupe la tête, il y a deux morceaux, puis il y a du sang, et puis le sang s'écoule, il faut entretenir, nettoyer, etc. Et puis il faut payer la thèse, payer comment dire, tous les moyens de transport. Ça coûte tellement cher, oh, rassurez-vous. Comme dans toute dictature, c'est à l'exécuté de payer son exécution. Alors, il y a trois solutions pour qu'il paye son exécution. Soit il a la menace sonnante et trébuchante sur lui, on lui prend, pour payer l'État. Soit, à défaut, c'est la commune d'où il est natif qui doit payer, ou à défaut, le département, comme une commune ne paye plus d'impôts, c'est au département, le département n'en a pas d'argent. Conséquence, et bien on va décider de dépouiller les gens. C'est pour ça que la plupart des victimes sont nues ou quasiment nues, parce qu'on va vendre des vêtements, etc. Puis à défaut, on va leur arracher les dents. À défaut, on va couper les cheveux, etc. C'est là. Tout ça, c'est vendu à l'encontre. Conséquence, ça me rappelle une histoire. Lorsqu'il y a eu la perte de Tiananmen en 1989, c'est l'histoire qui n'existe pas pour vous. L'affaire Tiananmen, je me souviens, la une des journaux. Comment le gouvernement chinois ose demander 120 francs à chaque famille de gens exécutés pour payer l'État? C'est une quel scandale! Non, c'est une tradition dans tous les pays de dictature. En Allemagne nazie, c'est la même chose, chez les communistes, etc., etc. L'État n'a pas à payer le fait que vous soyez mauvais citoyen et qu'il vous oblige, il est obligé de vous exécuter. Le crime, il est triple. Conséquence, on va faire. Je prends l'exemple du bateau. Vous savez, quand vous mettez une cargaison de 800 enfants dans un bateau, que vous laissez couler le bateau, il y a deux problèmes. Premièrement, on ne peut pas récupérer le bateau, 2000 livres. Puis il y a toujours des enfants qui s'échappent. Mais il faut les tuer. Et bien là, les bateaux chavirent, etc., ceux qui sont chargés de la personne, ça coûte très cher. Tout ça. Donc on se dit, ces moyens pragmatiques sont inefficaces, pour deux raisons, sont trop chers et trop longs. Et là on se dit, il faut un plan. Donc on va demander, en fait, à deux généraux, mais je ne vais retenir qu'un, au général en chef des armées de l'Ouest, de créer un plan d'extermination et d'anéantissement. C'est un militaire. Il ne se pose pas de questions. Je dois le faire. Donc, c'est à moi de trouver les moyens de le faire. Et pour ce faire, il va créer un plan qui va se baser sur trois structures. La première structure que vous connaissez, ce sont les colonnes infernales. La deuxième structure, complètement inconnue, c'est le comité de subsistance. Et troisième structure, c'est la fameuse flottille sur la Loire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois qu'elle a joué son rôle dans le cadre de la ligne Maginot, elle va servir à l'anarchisme. Le plan des colonnes infernales, on le connaît. Thureau, je fais bien attention, reçoit l'ordre, il va rédiger son plan, conformément à la loi, conformément à l'ordre. Je veux l'aval du ministre de la guerre, puisqu'on est en situation de guerre. Donc on relève du ministère de la guerre, c'est Carnot. Puis il envoie son plan en disant, ben voilà, mes colonnes vont se mettre en marche, telle route, tel jour, ça, 21 janvier, pour des raisons de commémoration. Et puis, les itinéraires sont fixés d'avance, en tout cas pour les premiers, puis après, ce sera aux généraux de s'adapter aux conditions. 6 colonnes, 6 armées, 12 colonnes. Le comité de subsistance, c'est très simple. C'est le comité, comme on a eu la commission M du temps des nazis, chargé du pillage de la Vendée. Je vous ai dit que c'était très riche, la Vendée. Et on a des descriptions de combats entiers qui vont à Paris et qui sont vendus à l'encan. Jamais les dirigeants politiques en France n'ont été aussi riches. La petite, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, vous venez, d'accord, mais comment vous savez tout ça? Je le sais pour une raison tout à fait simple, c'est que nous sommes dans un cadre législatif, mais aussi de contrôle. Ça veut dire que les hommes politiques ont voté les lois. Les généraux qui ont donné les ordres, ils se méfient de leurs subalternes. Et ils vont leur demander, vous voyez comme quoi l'histoire peut être à double tranchant, de rédiger quotidiennement un rapport en double exemplaire. Un, pour le pouvoir politique, et un pour le pouvoir militaire. Et chaque jour, ces gens racontent leurs bonnes œuvres. Je prends les choses au hasard. 24 janvier, c'est Thurou lui-même. Mais que l'homme a déjà fait des merveilles, par un rebelle n'a échappé à leur recherche. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours, ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants. Il faut que tout ce qui existe de bois de haute qualité dans la Vendée soit battu. Vous voyez toujours. Extermination, anéantissement. Et c'est là où on découvre, par exemple, la création des fours crématoires. Ahmed, c'est un officier de police qui raconte ça dans un rapport, fait allumer les fours. En fait, ce sont les fours à pain. Et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous lui avons fait des représentations. Il nous a répondu que c'est ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D'abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes. Et nous n'avons trop rien dit. Mais aujourd'hui, les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et turons qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des royalistes manquantes. Vous voyez le vocabulaire? Ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes. Elles habitent en Vendée, donc elles sont des criminelles. Déjà à notre connaissance, 23 ont subi cet horrible supplice et elles n'étaient que coupables d'adorer la nation. Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont menacés du même sort. Et on découvre comme ça un certain nombre de choses, par exemple la fonte des Grèces. L'affaire se passe le 5 avril 1794 à Clisson. C'est très précis ce document, d'une précision quasiment médicale. Nous faisions des trous de terre. Je vous imagine ça. Nous faisions des trous de terre pour placer des chaudières afin de recevoir ce qui tombait. Donc des chaudières pour recevoir ce qui tombait. Nous avons mis des barres de fer au-dessus et placé les femmes au-dessus. Puis au-dessus encore était le feu. Deux de mes camarades étaient avec moi pour cette affaire. J'en envoyais 10 barils à Nantes. C'était comme de la graisse de momie. Elle servait pour les hôpitaux. Vous voyez la précision de la chose. C'est pour récupérer la graisse pure. Pour pouvoir s'en servir. Si on avait mis le feu, c'était impossible d'utiliser cette graisse. Je ne vous parle pas de la momification des corps, des tanneries de peau humaine. Je peux vous lire le détail sur les tanneries de peau humaine. Comment on a tanné la peau des Vendéens pour faire des culottes d'officiers. La déposition a eu lieu le 6 novembre 1794. Elle est très précise. Le nommé Péquel, chirurgien majeur du 4e département, 4e bataillon des Ardennes, Claude Jean Humeau, on a tous les noms, on a tout. Dans une déclaration au tribunal d'Angers en date du 6 novembre 1794, on a écorché 32. Il voulut contraindre Alexis Lemonnier, chamoiseur au pont de C, de les tanner. Les peaux furent transportées chez un nommé l'Anglais, tanneur, où un soldat les a travaillées. Ces peaux sont à l'heure actuelle chez Prudhomme, Manchenier. On a les attestations d'un berger qui raconte comment les tannait, etc. C'est ça. Alors, double exemplaire. Un pour le pouvoir politique, un pour le pouvoir militaire. Lorsque Robespierre, l'origine de Robespierre, c'est bon. Les gens sont terrorisés en disant, attendez, le monde entier va savoir le crime qu'on a commis. Il faut absolument travailler ça pour faire en sorte que cela s'oublie. Détruisons la documentation. Et on a détruit la documentation publique, politique. On a oublié la double documentation, c'est-à-dire celle donnée, faite pour les militaires. Les militaires n'ayant pas reçu d'ordre, ils ont déposé ça tranquillement au sein des archives militaires de l'armée. Et c'est pour ça, si bon nombre de dossiers ont été vidés au cours du 19e siècle, j'étais fasciné, il y a une étude à faire là-dessus. Qui a vidé les dossiers de l'armée? Il y avait des chemises entières qui ont été vidées. Mais vous savez, la documentation publique, c'est très complexe. On n'a pas tout vidé, il en est resté la preuve. On a trouvé des dizaines, des centaines de témoignages. Donc une fois qu'on a fait cela, qu'on a décrit le crime, faites bien attention, nous ne sommes plus du tout dans le cadre du crime de guerre. Nous sommes bien dans le cadre d'un crime contre l'humanité. On va parler de la notion de génocide tout à l'heure. Donc voilà.
Combien de morts?
combien de maisons exterminées, puisqu'il s'agissait bien de détruire, il s'agissait bien de faire de la Vendée une terre vierge, une terre brûlée. L'idéal aurait été que nous ayons commune par commune la liste des gens exterminés. Alors, est-ce que ça existait? Oui. Il y a des prêtres, c'est le cas de la chapelle Basse-Mer, qui, je vous ai raconté l'histoire des prêtres natifs d'une paroisse qui ne pouvaient pas être nommés dans leur paroisse natale et par rapport au Concile de Trente, mais qui, à suite de la pression, sont retournés chercher la paix et la sécurité chez eux. Eh bien, ces gens-là, comme les plus curés titulaires, en raison des ordres donnés par les évêques réfractaires, sont restés dans les paroisses natales. Et ils ont rédigé ce qu'on appelle les registres clandestins. Au Luxe-sur-Boulogne, c'est le cas avec l'abbé Barbedette. À la chapelle Basse-Mer, c'est le cas avec l'abbé Robin. Et je dirais presque que dans le cas du canton de Longuetrou, c'est le cas partout, dans les 5 paroisses, sauf une. On a la liste déjà. À la chapelle Basse-Mer, 3500 habitants sur l'Ancien Régime, 800 disparus. Mais on a, l'abbé Robin a enregistré 461 victimes. Au Luxe-sur-Boulogne, la liste est exacte. 656 ou 561 chez vous. De gens, vous avez les noms. Mais nous n'avons sur 770 paroisses qu'à peu près 110 registres clandestins. Alors, est-ce que l'on pouvait évaluer la population qui avait disparu du fait de la guerre et de l'extermination? C'est une méthode démographique classique américaine, colossale en termes de travail. C'est d'évaluer la population sous l'Ancien Régime, d'évaluer la population sous le Nouveau Régime, et là, c'est ce qu'on a fait, et je peux vous donner les chiffres de manière assez précise, en tout cas un chiffre en dessous duquel on ne peut plus aller à l'heure actuelle. Sur une population de 815 000 habitants, au minimum 117 257 personnes ont disparu du fait de la guerre et de la répression. Et en données absolues, ce qui est intéressant, c'est que c'est le Maine-et-Loire que le département est le plus touché, 44 000 habitants. La Vendée, 30 000. La Loire-Intérieure, 26 000, 27 000. Et les Deux-Sèvres, 16 000. En pourcentage, le Maine-et-Loire, 20 %. Les Deux-Sèvres, 15 %. La Loire-Intérieure, 13 %. Et la Vendée, 10 %. Vous voyez, quand je vous disais que la Vendée est en fait assez en marge. Alors, est-ce que le but de la Convention d'exterminer de préférence les femmes, les signes producteurs et les enfants, c'est matérialisé, c'est concrétisé? Ben oui. Tous les carottages que nous avons pu faire grâce au cahier, au registre clandestin des prêtres, sont tous convergents au niveau des résultats, que ce soit à la chapelle Basse-Mer, à Saint-Julien-de-Concel, au Longuetrou ou au Luxe-sur-Boulogne, 80% minimum. Les gens exterminés sont les femmes, les enfants et les vieillards. C'est clair, c'est précis, irréductible. Deuxième chose. Un jour, chez Jean Meyer, lisez du Jean Meyer. C'est du génie. Je vais chez lui à Rennes et il me dit, tu sais, le rêve, quand je faisais mon travail sur la chapelle Basse-Mer, serait d'avoir la liste de l'habitat détruit. Et moi, je lui réponds en disant, oui, il peut exister des miracles, mais en la matière, je n'y crois pas. Et le hasard a fait un concours de circonstances incroyables. La semaine suivante, ce n'est pas une plaisanterie, un vieux monsieur, un peu excité, arrive dans le bureau du maire de la chapelle de Basse-Mer, il n'avait même pas frappé à la porte. Il rentre comme ça, le maire était assis. Il m'a raconté ça. Puis il arrive en disant, tenez monsieur le maire, voilà la liste de l'habitat détruit chez vous sous la Révolution. Au revoir. Il m'a dit, c'est quoi cette histoire, ce fou? Il va voir ses secrétaires en disant, c'est qui? On ne sait pas, vous avez visité quelqu'un? Ben, on ne sait pas. Le maire m'appelle en disant, j'ai un document pour toi. Puis viens chercher, si ça peut éventuellement t'intéresser, puisque je passe mon temps à travailler dans les archives paroissiales et municipales. Et je vois liste de l'habitat détruit à la chapelle de Basse-Mer. 361 maisons. Je me dis, c'est quoi ça? On n'avait pas la source.
On ne savait pas la provenance, par nature, on n'avait pas de référence.
Je suis stupéfait. Et je vais voir Jean-Mi en disant, on a une liste, mais elle n'est pas identifiable. Et les jours suivants, le hasard a fait que, lors d'une réunion, on me met en contact avec ce monsieur, qui est un grand monsieur, qui est mort maintenant, le médecin général Carré, du génie. Une conscience, une approche de l'histoire aussi bien macro que micro. Bien, mais dites donc, je savais vous déposer un document, là, j'avais le basse-mer. Je dis, ah oui, c'est vous. Je dis, mais ça vient d'où? De R124 Nantes. Je me précipite à Nantes, série des uns, et je m'aperçois que Napoléon Ier avait décidé d'indemniser la Vendée, commune par commune, département par département. Document totalement méconnu. Donc nous avions à la Chapelle-Basse-Mer 361 maisons détruites. Alors donc, on s'est dit avec Meyer, c'est une donnée absolue, mais elle n'est pas relative, parce que l'idéal serait d'avoir le nombre de maisons existantes sous l'ancien régime. La seule solution, on s'est dit, c'est le cadastre. Mais il faudrait que le cadastre soit au moins de 1808, et deuxièmement, que dessus soit spécifié l'habitat détruit, l'habitat est reconstruit. Je me précipite dans le cadastre, tout y était. 961 maisons recensées à la Chapelle-Basse-Mer sous l'ancien régime. 362 maisons détruites. Ça y est, on a tout. Un tiers de l'habitat détruit, un peu plus. Mais en plus, grâce à la précision de la documentation cadastral, j'ai pu reconstituer les valeurs et puis surtout les itinéraires dans le cadre de la commune de la Chapelle-Basse-Mer. Et là, je me suis rendu compte que c'est exclusivement les lieux de concentration de richesses, c'est-à-dire les hameaux, les bourgs, qui ont été détruits. Et puis on a pu reconstituer les itinéraires, ils ne s'engageaient pas dans le bocage, que les voies dégagées. Et les deux chiffres en parallèle, et bien ça nous a donné les résultats. Donc cette méthode a été extrapolé pour l'ensemble de la Vendée militaire, puisque tous les départements, je vous raconterai tout à l'heure pourquoi Napoléon a indemnisé la Vendée. Donc, Napoléon a indemnisé la Vendée en 1808, la loi atlantique en 1811 et le Deux-Sèvres en 1812. Il devait indemniser en 1814 le Maine-et-Loire, vous imaginez pourquoi il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que cette liste était complète? Non, pour la Vendée, malheureusement. On avait que le tiers. Intact, sauf une commune, pour la loi atlantique, loi inférieure. Intact pour les deux sèvres. Donc on a fait le travail absolu et relatif qui donne ce résultat suivant. Sur 56 760 maisons recensées, 10 000 maisons ont été détruites, soit 20%. En termes de proportion, ce sont les deux sèvres qui ont été les plus dévastées, 35%. 3 000 maisons sur 9 000. La Vendée, mais que dans le tiers, et c'est le tiers le plus réprimé, 17%, et la Loire intérieure, 16%. Ben, ça y est, on a les deux chiffres, on a tout. Alors pourquoi Napoléon a indemnisé la Vendée? Si vous voulez connaître la réaction d'un homme, cherchez la femme. En fait, on a reconstitué cette histoire, c'était une sorte invraisemblable. C'est lié à un baron qui s'appelle Dupin, c'est un génie, c'est un mathématicien, qui demande à être affecté à la préfecture des Deux-Sèvres. J'ai du mal à comprendre comment un homme de cette qualité exige, qui est un copain de Napoléon, un ami, exige cette affectation. Et puis, c'est lui qui a fait indemniser la Vendée. Il a fait des études, il a conclu que c'était un crime et qu'il fallait réparer. À l'époque, j'étais directeur de communication, secrétaire du cabinet du président du conseil régional, avant à Paris et puis après avec un parrain. Et j'avais un de mes bons amis qui était un breton, qui était préfet des Deux-Sèvres. Et là, je raconte toujours cette histoire avec beaucoup d'humour. Un jour, il m'appelle en disant, écoute, viens à la préfecture, j'ai un truc incroyable que je viens de découvrir et qui va te permettre de comprendre pourquoi la Vendée a été indemnisée.
Donc on se précipite.
Et puis,
on mange.
Et puis on se retrouve tous les deux, lui en tenue de préfet, moi en costume, étalé sur le sol, sous la table de la salle à manger, imaginez le personnel, en train de, d'étaler les documents. Et là on s'aperçoit que le baron Dupin s'était marié avec la veuve Gélie.
Ça ne vous dit rien, la veuve Gélie.
Mais la veuve Gélie, c'est la seconde femme de Danton. Danton a eu une prise de conscience des erreurs commises en Vendée au dernier moment. Il a demandé un mariage religieux, traditionnel. Il s'est marié avec une femme monarchiste et il a été exécuté. Et sa veuve s'est mariée avec ce préfet et l'histoire, je vous l'ai reconstituée. C'est la veuve de Danton qui a fait indemniser la mort. Alors la mémoire de tout ça. Est-ce qu'à l'époque, on avait conscience du crime commis vis-à-vis de la Vendée et de la spécificité du crime commis? Je dirais oui, spontanément, puisque ceux qui sont à l'origine de la chute de Robespierre ont demandé la destruction de la documentation politique. Donc ils avaient une conscience. Mais ils ne l'avaient pas matérialisée, cette conscience. Il faut ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action. Le temps permettra l'oubli. C'est tout. Est-ce que d'autres avaient cette conscience? Oui. Et là, on a découvert, j'ai oublié d'apporter ce livre, je raconte ça, une multitude incroyable d'actions qui ont été faites pour empêcher l'oubli. Pour commencer, un imprimeur anonyme qui a décidé d'éditer, d'imprimer tous les documents liés à cette affaire. On a décidé de planter des arbres, d'ériger des monuments, etc. Et sans aucun doute, le document le plus incroyable qu'on a découvert après, à soutenance de ma thèse, c'est que le père du communisme, Gracchus Babeuf, secrétaire de Fouché, je ne vous conseille pas de lire Babeuf parce que c'est illisible, sauf un livre, celui-ci. En janvier 1795, il publie un livre du système de dépopulation en Vendée, où il va à la fois analyser le pourquoi et le comment et décortiquer la mécanique intellectuelle et les conséquences du terrain. Il avait rédigé d'une manière très 18e siècle, l'ouvrage que 160 ans plus tard, j'ai rédigé d'une manière scientifique. Et je l'ai découvert après. Il est construit. Et il va se poser les mêmes questions que je me suis posées. Comment peut-on classer ce crime d'État? Comment peut-on l'appeler? Ce sont des questions que je me suis posées. Moi, j'ai répondu en tant que juriste, après la convention de Nuremberg. Le seul mot adéquat, c'est le mot génocide. Je vais vous le définir tout à l'heure. Et lui, il n'a pas trouvé le vocabulaire adéquat. Il a créé un mot, le populicide vendéen. Crime d'État unique dans l'histoire de l'humanité, car voté, réalisé, il appelle ça le populicide. Son document a été détruit, etc. La mémoire. Napoléon a entretenu cette mémoire. Je vous l'ai dit, il a indemnisé. Il a exempté les Vendéens. On dit toujours que la restauration n'a rien fait pour la Vendée. C'est faux, archi faux. Lui dit, comme Charles X, ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire pour la Vendée. Les indemnisants. Sur leur cassette personnelle. Je peux vous dire que quand on voit quand le duc de Berry se marie, la moitié de sa dot, il va la consacrer aux Vendéens et aux Chouans. On a les chiffres, etc. C'est pour ça, lorsqu'on avait fait l'exposition à Paris, j'avais tenu à voir le tableau de la duchesse de Berry. Ce qu'ils ont fait pour la Vendée, rien que ce couple, c'est extraordinaire. Mais le comte d'Artois aussi, etc. Alors l'oubli, il a commencé quand? Lui, il a commencé avec Philippe Ier. C'est ça le paradoxe. C'est Philippe Ier qui a publié Michelet, pour
créer une histoire nouvelle et pour gommer l'histoire mondiale. Et puis après, les choses vont s'accentuer tout au long du 19e siècle et du 20e siècle.
La manipulation historique est telle qu'en 1901, on veut faire croire qu'il ne s'est pas, il ne s'est rien passé en Vendée. Et c'est une véritable insurrection au sein des journaux locaux en disant « Mais vous n'avez pas le droit de nier les choses. Vous n'avez pas le droit de les remettre en question. Vous ne pouvez pas nier l'état des poèmes, etc. etc. » Puis l'histoire fait que les choses se sont oubliées et puis c'est devenu un enjeu idéologique et puis on a gommé, relativisé, etc.
Alors, quel était le mot que l'on pouvait retenir pour la Vendée?
Et je vais d'abord définir, si vous permettez, le concept de génocide. Ce mot a été créé de toutes pièces par un philosophe polonais qui s'appelle Lemkin en 1943. Ce n'est pas un mot qui est spécifique, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire, au monde juif. C'est un néologisme qui a une définition, qui a trouvé une définition lors de la Convention de Nuremberg. On appelle génocide, et soyez très clair là-dessus. La conception ou la réalisation partielle ou totale ou la complicité dans la réalisation partielle ou totale et dans la conception de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux. Il y a trois crimes de génocide. Je répète. La conception, ou la réalisation, ou la complicité. En Vendée, c'est clair. Il y a bien une conception, il y a les lois. Uniquement. C'est l'expression même de la conception. On peut me dire tout ce que l'on veut. Elles ont été votées. La complicité, ben, elle est claire, par nature. Puisqu'elles ont été votées, ces lois. Et tous les arrêtés, les ordres, etc. La réalisation partielle, elle est évidente. On n'en parle pas. Donc, pour la première partie de la définition, c'est bon. Est-ce que les Vendéens constituent un groupe humain? Ça, c'est une véritable question. Parce que pour les révolutionnaires, sûrement pas. Ce sont des animaux. Mais lucidement, on peut admettre que les Vendéens constituent un groupe humain. De type ethnique, je répète toujours, les Juifs, est-ce une ethnie? Les catholiques, est-ce une ethnie? Il y a bien eu le génocide des catholiques en Allemagne. Les communistes, est-ce une ethnie? Non. Racial, je ne vois pas en quoi les Juifs sont... pas le bon terme. Je vois pas aussi pour les communistes, etc., etc. Est-ce que ça constitue un groupe humain de type religieux? Ben, par nature, puisque c'est au nom, à cause de leur foi, qu'ils ont été éliminés. Donc, à l'heure actuelle, le seul mot qui exprime bien le crime commis vis-à-vis de la Vendée, c'est bien le mot de génocide. Vous êtes trop jeune. Quand j'ai publié ce livre, vous en souvenez, ça a été un tollé chez Pivot, etc. Je peux vous dire que j'en ai pris, mais vraiment beaucoup. Tout a été dit sur moi, tout a été fait. On a même brûlé mes maisons. Vous pouvez pas imaginer. Alors, j'ai dû démissionner de l'enseignement, etc. Mais en même temps, tous les travaux qui ont été faits sur la Vendée, quel qu'il soit, à l'exception d'un historien qui lui a fait toute sa carrière sur un mensonge, c'est Jean-Clément Martin. Toutes les études faites sur la Vendée sont allées dans le même sens, sont arrivées aux mêmes conclusions. Quelle que soit la commune étudiée, quels que soient les règlements, quels que soient les ordres, etc.
toutes sont allées dans le même sens, quelles que soient les structures qui ont œuvré. Alors, il reste, et c'est à quoi je travaille à partir de samedi dernier, puisque ce livre a été republié chez Perrin, à faire reconnaître par l'ONU un nouveau crime contre l'humanité. Au niveau du génocide, puisque le génocide c'est un crime contre l'humanité. Je vous ai dit tout à l'heure, la conception, la complicité, la réalisation. Et bien moi j'ai dit aussi, il y a un autre crime qu'il faut définir, c'est la mémoire. C'est ce que j'appelle le mémoricide. Il faut, coûte que coûte, maintenant, faire reconnaître ce crime contre l'humanité. Ce génocide de la mémoire. Et je conclue en disant, c'est tellement grave, ce crime commis vis-à-vis de la Vendée, c'est qu'on a réussi à faire, je dis la phrase, comment peut-on accepter que l'histoire officielle, notamment celle enseignée aux élèves, fasse des bourreaux des saints laïcs et des victimes des brigands des traîtres à la patrie? Comment peut-on encore refuser à la Vendée la reconnaissance de ce génocide? Comment peut-on imaginer que des criminels contre l'humanité, comme Robespierre, Carnot, aient donné leur nom à des collèges, à des lycées, à des rues? Ou d'autres, comme Alain, vous savez, le fondateur des fours crématoires, Thurot, et leur nom sur l'Arc de Triomphe. Et je pense que, personnellement, une des grandes raisons de notre mal français, c'est que nous raisonnons mal parce que les bases de notre raisonnement sont des mauvaises bases. Et je vous ai expliqué par la traduction pourquoi. Parce que l'histoire, la matière historique, a été confisquée et donc manipulée par certains qui n'en ont vu dans cette manipulation et dans cette confiscation qu'un enjeu idéologique. Je vais terminer là-dessus. Demain, vous serez étudiant, si vous ne l'êtes pas déjà. Arrangez-vous toujours pour travailler dans le cadre de thèses, que ce soit au niveau du mémoire de maîtrise, du DEA ou de doctorat, de travailler avec des gens qui soient exigeants. Et deuxièmement, trouvez toujours des sujets qui soient des sujets de construction. Parce que, au-delà de votre construction personnelle, si vous pouvez permettre à la pensée historique française ou sciences politiques autres d'avancer, c'est un devoir que vous avez. Ne soyez pas feignants, contrairement à la chanson. Battez-vous pour être le meilleur. C'est par votre exemple que vous serez bon prof, que vous serez prof accepté. J'en connais ici qui ont beaucoup souffert comme prof, et bien n'empêche qu'ils ont été acceptés et qu'ils ont fait leur preuve et qu'ils forment. Si vous voulez former les autres, formez-vous bien. Si vous avez des questions à poser, allez-y.
Alors, pour l'affaire personnelle, vous savez, lorsque moi j'étais tout jeune à l'époque et il m'a connu, moi j'étais pas très bien formé politiquement. Hein. Moi je venais du collège catholique, Eudiste, on n'était pas formé à mon combat politique. À l'université, on nous avait appris grâce au talent d'un grand professeur, Hubert Armer, ça ne vous dit rien, qui est un très bon historien du droit, comment avoir le meilleur note. Enfin, ça c'est une bonne méthode. Comment être le meilleur élève en ne pensant pas ce que pense le professeur? La méthode est vraiment très simple. Apprenez son verbe et comprenez ses désirs. Moi, je n'ai jamais fait un travail objectif à l'université. Je ne me suis jamais exprimé tant que je n'avais pas mes diplômes. J'ai toujours écrit ce que voulait que le professeur, ce que le professeur voulait dire. Et comme les copies sont étaient anonymes, je ne sais pas si elles sont encore à faire, j'avais toujours les meilleures notes. Parce que j'avais cette faculté grâce à un professeur qui nous a appris le marxisme. J'ai appris le marxisme, non pas à l'université, mais dans les cours parallèles à l'université par un homme de droite. Il nous a expliqué à l'université de Haute-Bretagne, si on voulait avoir, les notes, il fallait être marxiste. Donc j'ai écrit le marxisme à l'envie. Et on n'avait pas tellement le choix à l'UNB. Hein? Ce que d'autres n'ont pas fait d'ailleurs. Hein? Il n'y a aucun problème. Avec ta mère, je savais ce qu'il fallait dire. Avec les autres professeurs, je savais ce qu'il fallait.
J'ai voulu vous raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé. Une semaine avant ma soutenance, j'arrive à la maison, dans mon appartement à Nantes, qui avait été cambriolé. Toutes mes thèses avaient été volées. Donc j'appelle Jean-Rayet, les anges. Pour soutenir ma thèse, il faudrait que vous m'en redonniez une autre. Et il me dit, tu me plaisantes? Et je dis, ben non, moi j'ai bien d'être cambriolé. Et Jean-Rayet, est-ce que vous voulez soutenir votre thèse? Parce que si vous êtes cambriolé, c'est pas par hasard. Je vous plaisantais, ça n'a rien à voir. Et vous rendez pas compte, nous sommes en 85. Dans 4 ans, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Ils vont mettre le paquet, empêcher toute étude de cette nature. Conséquence, j'appelle Chomuge, qui me dit, réfléchis bien. Je lui dis, non, tu vas soutenir. C'était le vendredi suivant. Le lundi, j'étais maître auxiliaire de la catégorie première échelon, en étant docteur, c'est pour nous. Un monsieur dit, on voudrait vous rencontrer. J'étais maître auxiliaire de la catégorie, donc je croyais que c'était par rapport à mon poste. Dans un lieu public de Piccadilly. Donc j'y vais. Mais moi, je ne vais pas pour discuter de ma thèse. J'y vais pour mon poste de prof. Et là, j'ai demandé à un monsieur qui m'a dit, non, non, je reconnaîtrais le poste. C'est vrai qu'on est bien, on ne se pose pas de questions, on est un peu naïf. Et donc j'arrive à voir monsieur, je vois à travers de son visage, je lui dis, vous savez, vous allez sauter une thèse qui dérange au cours au niveau de l'État. Rigolé. Ceci dit, il avait raison. Il n'a pas de raison. J'ai représenté. Et vous ne pouvez pas sauter cette thèse. C'est mon travail, etc. C'est ce que je raconte dans la traduction. C'est le prix de mon travail, je ne peux pas accepter ça. Et je lui dis, mais vous me donnez quoi en compensation? Et le gars me dit, madame, d'abord vous payez, on vous indemnise. Et j'ai connu ça. Vous avez une mallette, vous avez un paquet de 500. Et vous avez un lit de billets de 530. Alors je ne sais plus si c'est 500 000 ou 1 million que vous m'avez proposé, je pense à plus. Et bien ensuite, vous avez un poste à l'université. Là, vous éclatez de rire, du temps de se plaisanter. Vous partez. Et le mec vous dit, oui, si vous refusez, vous n'arrivez jamais à carrière à l'université et tout votre vie vous en aura. Donc la soutenance, je l'ai faite sans aucun problème. Pendant une année, j'étais tranquille. Ah, j'ai pas eu le moindre problème au lycée où j'étais. Mais le jour où la thèse est imprimée et publiée aux presses universitaires, Pivot m'invite, et en face de moi, il y a Jean Daniel, Vinoc, Tilly, dernier seul professeur communiste de l'histoire de l'enseignement américain, puis j'ai dit Martinet, le fondateur du PSU, c'est intéressant. Bien. Moi, Moujane, tout beau, tout peu, aucune ride. Ça passe très bien, les gars, mais là, c'est que moi, je ne fais pas la mission. Et en sortant, j'entends Martinet qui dit à Jean-Daniel, nous avons perdu la manche. Il a été excellent, parce qu'il a toujours souri. Et c'est vrai, c'est devenu un best-seller devant moi. C'est là que les enfants ont commencé. Je peux vous dire que j'ai dû prendre immédiatement une année de congé sabbatique d'enseignement. Tous les syndicats me sont tombés dessus. Alors, les rumeurs, n'en parlons pas, etc. C'est devenu un best-seller. Il n'y a pas de problème. Bon. Et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai dû démissionner l'année suivante, parce que les syndicats sont arrivés en disant, nous ne voulons pas ça, on se ment même, etc. Donc j'ai démissionné. C'est tout, voilà. Je suis surtout en errance, et le président du conseil régional de Poitiers
Le chat et un président m'a recruté comme directeur de communication au conseil régional. Mais tout de même, et ceci dit, vous avez été constaté dans l'actuel conseil régional.
Non. Je me mariais, j'ai travaillé 6 mois pour Raffarin et après, chargé de mission extérieure, parce qu'on ne peut pas travailler pour le président suivre, pour être honnête. Et après, j'ai créé ma société, ça. Mais moi, dès que je sors de l'article, etc., tout automatiquement, je vais traiter de nazi, de liser les internet souvent. Donc, chaque jour, je découvre, j'appartiens à des associations, donc je ne connais même pas le nom. C'est l'horreur. Je me souviens quand on a fait parler de la BDS en Bretagne, j'ai vu la une des journaux avec Télérama, parce que je n'avais pas parlé des camps d'extermination en Bretagne ou je ne sais pas quoi. De suite, j'ai eu 2 maisons brûlées, parce qu'ils avaient répertorié mes biens. 4 maisons qui ont été sauvées in extremis par les gendarmes, etc. Et la dernière en date, je suis en train de faire, je voulais vous en parler, c'est une belle occasion, de faire le mémorial du génocide en Vendée, dans une mairie de droite. J'ai tout acheté, les terrains, les églises, etc. Alors après, le maire, depuis 15 jours, vient de me sommer d'arrêter les travaux. Et pourtant, là-bas, vous voyez, on a fait le mémorial de l'extermination de la Vendée, mais vraiment, sans aucune subvention, sans rien du tout, sans aucun discours, etc. Et 500 jeunes sont passés là-bas, et bien là, on vient d'avoir l'ordre d'arrêter. C'est triste, mais c'est comme ça. Et le problème, on dénonce souvent la droite en France. Le problème de la droite, c'est qu'elle est mal formée. Ce qui fait que, je ne dis pas qu'elle ne soit pas compétente. Nous avons des hommes de droit en France qui sont plutôt intelligents et compétents, mais très mal formés, et qui se sont fait envahir par le verre de gauche, par les concepts de gauche, etc. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Par exemple, je prends un exemple très, très simple. Moi, je suis un peu de démographie. Quand je vois la courbe démographique en France, qui est, disons-le, positive, mais je serai un homme de droite, je pense que Sarkozy vient de prendre conscience de ça parce que son discours a changé. Quand on étudie la démographie de tous les pays traditionnellement catholiques en France et de toutes les villes où il y a, on est en cours de substitution de la population, on a plusieurs. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, nous vivons bien dans un cycle de substitution de population. Si le coefficient de production dans tous les pays catholiques en France, il est 1,3 à 1,4. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Hein? Mais dès qu'un homme de science, et en l'occurrence, je me souviens du professeur Tribala, a essayé de tirer le signal d'alarme en disant pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir, il faut que nos bases de raisonnement soient bonnes, et pour que nos bases de raisonnement soient bonnes, il faut que nos données soient bonnes. Donne-nous les moyens d'avoir de bonnes données. La loi fait qu'on ne fait pas. La conséquence. Et tout est comme ça. Voilà. Donc, cette politique, vous savez, moi c'est un cas parmi tant d'autres, il y a peu d'universitaires à l'heure actuelle en France élus qui ne soient pas au parti ou au syndicat. Et qui osent le dire. Personne n'aura le risque de le dire. Ce qui fait que lorsque vous avez des manifs comme on a eu cet an dernier, qui envoient les élèves dans les rues, ce ne sont les profs, parce que ce sont avant tout les militants. La perte d'arrêt s'explique comme ça, etc. Quand on voit le professeur élu à l'université de Dijon, mais c'est un crime contre l'intelligence. La droite n'a jamais pris conscience, j'en ai parlé à lui-même, n'a jamais pris conscience de l'enjeu de la population. C'est un. C'est un enjeu fondamental, mais ça peut être autre. Et on n'a rien fait à la production culturelle. Rien. Accepter la cooptation, c'était livrer l'outil de l'université avec tout ce que cela veut dire à l'outil idéologique et politique et syndicale. C'est tout. Moi, je suis fasciné par celui qui n'aime pas son de ses enfants.
parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Révolution française, 2 millions, mettons 29 millions
d'habitants, 2 millions de jeunes, d'enfants, 1,5 million. L'avortement, 98% des gens qui sont avortés en France sont d'origine nationale.
National, ils sont français, comme on dit maintenant en sociologie. 220 000 avortements en France, c'est énorme. 3 drames majeurs sur 200 ans. C'est un sacré. La France n'aime pas ses enfants. Mais elle n'aime pas ses enfants parce qu'elle n'aime pas son histoire. Pour moi, tout est lié. Jamais un père de peuple n'aurait fait ça. Il y a une étude à faire. Moi, je lance ça pour vous, les étudiants. On en avait parlé une fois, monseigneur. Pourquoi la France avait intérêt à la déclaration de la guerre en 14 et pourquoi elle a entretenu la guerre? Si vous répondez à cette question scientifiquement, ça nous permettrait de comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est un très bon sujet de mémoire.
Vous n'avez pas de piste, monseigneur?
Non, mais enfin, indiscutablement, Clémenceau a été un des hommes avec Ribot et Berthelot qui ont réussi à briser la tentative de paix séparée. Cette volonté de guerre jusqu'au bout. Qui était Clémenceau?
Et l'enregistrement des troupes en 14 est très très intéressant. L'étude de ça, on en voit qui sur le front?
Les populations.
Et de tradition monarchiste. Et vous avez cette phrase extraordinaire, mais rien que ça, c'est un sujet de mémoire qui vient avec l'affaire des piges de 1909. Faire les tuer, ils n'en aimeront que davantage la République. C'est nivelle. C'est extraordinaire.
Il y a d'autres questions?
Une petite dernière. Jean Meyer a dit René de Sécher débouche sur la méditation politique et j'ai refusé de le laisser s'engager sur cette voie. Est-ce que ça voudrait dire que l'étude de la Vendée militaire vous aurait été rendu royaliste?
Il ne parlait pas sentiment, il parlait de méditation. Oui, dernière.
Par contre, ce sera le mot de la fin en remerciant Rénal de l'avoir.
Je peux me permettre de vous dire deux choses encore. À Ashmel Basmer, on va réaliser dans les mois qui viennent un monument qui s'impose à nous-mêmes. On va ériger une statue, j'en parlais tout à l'heure, à Marie-Antoinette, à Louis XVII et à sa sœur, à Louis XVII, sa sœur aînée. À ce moment extraordinaire, on a retenu le sculpteur, au moment extraordinaire où la reine apprend l'exécution de son mari, le roi, et se met à genoux devant son fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, cette force. Et en dessous, il y aura de gravé cette phrase exceptionnelle qui est lourde, de sous-entendu aussi d'intelligence humaine. Lorsque son geôlier, Louis XVII, lui dire en blaguant, et que feras-tu si les Vendéens viennent à te libérer? N'oublie pas que Louis XVII a été roi de Vendée et qu'on a même construit une maison pour lui, à Belleville, à côté de la Roche-sur-Yon, qui existe toujours. Et Louis XVII a cette réponse d'une profondeur inouïe, qui lui dit, la première chose que je ferai, je te pardonnerai. Donc voilà, le projet que nous avons en cours, que l'on va mettre bientôt en avant dans les médias. Hein. Et Jean Bastien va ériger ce mémorial, on mettra la liste de tous les gens exterminés, et on fera enfin ce grand musée, j'espère, des guerres de l'Ouest, enfin, avec 4000 pièces, j'espère qu'on va faire. Voilà, alors il y a des livres là qui seront exclusivement pour une association. Hein. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas.